Voilà déjà la troisième et dernière prédication sur les béatitudes. Ces phrases choc de Jésus qui parle du royaume à contre-courant, le royaume qu'il annonce, qu'il incarne pleinement. Les béatitudes, c'est cette introduction du fameux sermon sur la montagne. Et puis si vous avez fréquenté nos célébrations ces dernières semaines, vous en avez certainement entendu parler de ce fameux sermon, puisque voilà, c'est la troisième prédication sur les béatitudes. Et puis Raphaël, récemment, a prêché aussi sur le texte du Notre Père, qui se trouve justement dans ce sermon sur la montagne. Ce matin, on se focalise alors sur la dernière partie des béatitudes, la dernière triade. La première triade, elle concernait plutôt le statut des bienheureux. La deuxième, elle concernait plutôt leur attitude, leur engagement. Et puis, cette troisième et dernière triade, eh bien, elle parle du rapport à l'adversité qu'ils subissent à cause de leur foi. Alors cette triade, cette dernière triade, elle est peut-être un peu plus flottante dans sa structure que les autres, parce que Jésus l'amplifie à la fin. Bref, je vais la lire et puis vous allez voir par vous-même. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Lorsque je rencontre des personnes pour la première fois, ou bien des gens que j'ai plus vus depuis très très longtemps, style des anciens camarades de classe ou bien quelque chose comme ça, enfin dans des contextes hors église, une des questions qui est assez facile hein, qu'on se pose pour faire connaissance, c'est tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi dans la vie ? Je trouve que c'est une question qui est intéressante, mais qui est un peu maladroite, en fait. Enfin, la façon de la poser, c'est... On sait pertinemment ce qu'elle signifie. Hein. On est en train de parler de l'activité professionnelle ou bien de l'occupation principale de la personne. Mais on pourrait répondre tellement de choses. Je passe du temps en famille, je cuisine souvent, je passe beaucoup de temps à faire la vaisselle. Par contre, je passe aussi beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Beaucoup trop de temps à me plaindre, beaucoup trop de temps à réfléchir aux prochaines choses que je vais faire, etc., etc. Bon, par contre, je fais du sport dans mon temps libre et ça, c'est bien. Mais en réalité, à cette question-là, finalement, 100% du temps, je pense, en fait, je réponds à la question qui est attendue. Je réponds de la façon qui est attendue, parce que j'aime bien en plus donner cette réponse, parce que les réactions qui viennent, elles sont assez diverses. Elles sont diverses parce qu'elles montrent la surprise chez la personne avec qui je dialogue. C'est la réponse qui est attendue. Je suis pasteur. Ah ouais ? Mais t'es jeune ! T'es quoi ? T'es sérieux ? Mais alors tu fais quoi de ton temps ? Ah, t'es prêtre ! Ou bien encore, c'est quoi un pasteur ? Enfin ça, c'est le genre de réponse que j'ai, les réactions que j'ai, des réactions pleines de surprises. Et jusqu'à aujourd'hui, je dois dire que j'ai jamais eu une réaction du style... T'es un de ces évangéliques sectaires. Ah, c'est toi qui es intolérant, qui manipule les gens et qui ne pense qu'à soi-même. Et t'es un de ces chrétiens, en fait. Ou bien, j'ai jamais été menacé ou mis en danger à cause de ma foi, à cause de ma profession de pasteur. Non, j'ai l'impression de pas trop déranger, en fait. Juste d'être une source de surprise. Ah bon? À l'époque de Jésus, à l'époque de son ministère, les Juifs, les disciples de Jésus, ils n'avaient pas une vie si facile dans ce domaine. Leur statut, eh bien finalement, c'était le statut que l'Empire romain en place voulait bien leur laisser, voulait bien leur donner. Au mieux, c'est une tolérance, si on ne fait pas trop de vagues, mais ça restait quand même une vie sous un empire qui vous a envahi, un empire qui domine sur vous de manière militaire. Des impôts qui sont élevés. On vous méprise. On vous laisse peu de chances de gagner un procès face à un citoyen romain. Tous les abus qu'on peut s'imaginer quand il y a des rapports de pouvoir tels que ceux-ci, qui sont si marqués. D'ailleurs, si dans la Bible, les gens qui sont collecteurs d'impôts, comme Matthieu ou bien Zachée, ils sont considérés dans le rang des pécheurs notoires, ou bien des gens peu fréquentables, eh bien c'est bien que le rapport à l'Empire romain, il est marqué d'une façon très négative. Jésus fait aussi allusion à ces choses, à cette domination romaine, dans ses enseignements, dans ses paroles. D'ailleurs, directement dans le sermon sur la montagne, si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Ça fait référence à un droit que les soldats romains avaient. Ils pouvaient réquisitionner n'importe qui pour porter des charges qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils ne souhaitaient pas porter. C'est un droit que les soldats, les fonctionnaires avaient, de réquisitionner des personnes comme ça. C'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer. On est dans les récits maintenant, dans le calendrier chrétien de la Semaine Sainte. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque les soldats chargent Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus lorsqu'il en est plus capable. Être sous domination militaire romaine, ce n'est pas une situation que l'on qualifierait de pacifique. Selon les Juifs, ce ne serait pas un shalom. Et Jésus annonce une parole pour ceux qui répandent autour de la paix. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ceux qui répandent autour de la paix, ou bien encore, on pourrait dire les artisans de paix, ou bien les faiseurs de paix, ça c'est des bonnes traductions en fait, qui rendent bien la dynamique, la littéralité du terme qui est là. Le terme qui est utilisé, il comprend vraiment le verbe faire et puis le mot paix. Donc c'est faire la paix. Heureux ceux qui font la paix, qui créent la paix. On comprend bien qu'il y a quelque chose d'actif, de proactif dans ce terme qui est utilisé là par Jésus, les faiseurs de paix, les artisans de paix. C'est quoi la paix pour toi? Je dois avouer que naturellement, de mon côté, c'est laisse-moi la paix, je suis en paix, je te laisse la paix, on est bien là, ça va comme ça. Si j'ai des problèmes avec personne, je me sens en paix. Un peu quelque chose de l'ordre d'éviter les conflits. Mais dans cette façon de considérer la paix, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de faire, justement. Des faiseurs de paix, des artisans de paix. D'ailleurs, Jésus, il n'a pas dit « Heureux ceux qui évitent les conflits, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Il parle d'artisans de paix. Alors les artisans de paix dont Jésus parle, ils sont appelés à s'impliquer dans les conflits, à oser un peu se salir les mains. Pas à créer des conflits ou à soulever, mais ils sont appelés à s'impliquer dans les conflits, à aller dans les conflits, apporter la dynamique du royaume de Dieu dans les zones de conflit. Alors c'est vrai que je me tourne rarement vers la traduction de la Bible d'André Chouraki. Je remercie Michael qui m'a pointé vers cette traduction pour ce texte des Béatitudes. La traduction de Chouraki, si vous la connaissez, vous savez qu'elle est assez particulière. Hein. C'est une traduction qui est très créative, poétique, mystique, mais aussi très intéressante parce qu'elle cherche à faire ressortir très fortement les racines sémitiques, les racines du langage hébraïque du texte. Et puis, pour le terme « heureux » ou bien « bienheureux », on en a parlé assez longuement dans la première prédication, eh bien, il utilise une formulation, je dois avouer, je ne comprends pas pourquoi il utilise cette formulation, mais pour cette béatitude des artisans de paix, elle va bien, elle va très bien. Il dit « En marche les faiseurs de paix, en marche !» pour mettre cette notion d'être actif, d'être impliqué dans la paix. « En marche, il faut se bouger pour la paix, il faut être actif. » C'est eux que Dieu reconnaît pour ses fils, ceux qui sont en marche pour la paix. Ceux qui font la paix selon le royaume des cieux. Eh bien, eux, ils ont le statut de membres de la famille de Dieu, ceux qui reflètent les traits de caractère de leur Père. Le public cible du sermon sur la montagne, c'est probablement un grand mix de personnes, de beaucoup de gens, de statuts différents. Beaucoup de gens marginalisés, si on regarde déjà les 12, on en trouve quelques-uns. Mais aussi certainement des gens de la haute société. Peut-être même qu'il y avait des soldats romains qui entendaient ce sermon sur la montagne, qui surveillaient tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents groupes d'influence dans le judaïsme. Et là, je vais nommer quatre groupes, ou bien quatre sectes, à comprendre comme groupe, secte principale du judaïsme. Et puis ce que je vais dire là, c'est évidemment une grande généralisation, peut-être qu'ils n'étaient pas tous exactement comme ça. On va parler des Sadducéens, des Pharisiens, des Esséniens et des Zélotes. C'est parti pour un petit cours d'histoire, ça va être passionnant, vous allez voir. Moi, je trouve ça génial. Ces gens, ils avaient tous de l'influence, une certaine influence sur la façon de penser le judaïsme, sur la façon de comprendre les choses. Et certainement, quand on réfléchit en termes de paix, eh bien, ils avaient, ces groupes, leur définition aussi de comment vivre la paix, comment apporter la paix. Alors, il y avait les Sadducéens. Eux, on les retrouve dans la Bible assez souvent. Eux, c'est l'élite de l'élite, en fait. C'est des gens qui étaient riches, qui étaient influents. Quand on parle du grand prêtre dans la Bible, eh bien, c'était des Sadducéens. C'est eux qui contrôlaient aussi la majeure partie du Sanhédrin, du pouvoir politique juif. C'était donc eux qui avaient le plus de pouvoir. Et puis eux, leur façon de gérer la question de l'occupation romaine, c'était d'être opportuniste. On n'est pas content de cette domination des Romains. C'est pas ça qui est bon pour nous. Mais autant en tirer le meilleur de cette situation plutôt que de vouloir essayer de la changer et puis de perdre au change finalement. Autant essayer d'en tirer le meilleur. Alors les Sadducéens, ils vont pas dire non quand il y a des collaborations avec les autorités romaines. Ils font de leur mieux finalement pour essayer de maintenir leur statut privilégié, ce qu'on peut comprendre. Et Jésus, lui, les confronte à plusieurs reprises dans la Bible. Je ne sais pas si vous appelez des gens race de vipères. Jésus le fait, et il le fait par exemple aux pharisiens et aux sadducéens. Race de vipères, en s'adressant à des sadducéens. Caïphe, le grand prêtre, dans les scènes de la crucifixion, on ressent bien son envie d'essayer de préserver le statu quo, justement. Quand il dit, c'est lui qui dit, qui prophétise, en fait, sans le réaliser, il est préférable qu'un homme meure, en parlant de Jésus, plutôt que la nation tout entière. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui perturbe la paix qui est en place, finalement. Eux, ils la vivent déjà, la paix. Et donc, pour eux, faire la paix, ben, dans ce contexte-là, ça signifie tuer Jésus. En résumé, les Sadducéens diraient faire la paix via le réalisme politique. Donc ça, c'est un groupe d'influence qui écoute, et les gens qui écoutent le sermon sur la montagne, et quand ils entendent « heureux les artisans de paix », peut-être qu'ils sont influencés par cette façon de penser. Il y a aussi les pharisiens. Comme les sadducéens, les pharisiens sont très focalisés sur la Torah, la loi, les 5 premiers livres de nos Bibles, hein. Mais ils ont aussi un grand respect pour tout le reste des Écritures de l'Ancien Testament. Et aussi, et là c'est là que c'est particulier pour eux, pour les traditions orales. Et c'est leur mission finalement de faire perdurer, de faire respecter ces traditions, cette tradition orale. Si on devait faire une sorte d'analogie, on dirait que les sadducéens, c'était des théologiens qui sont universitaires ou bien ceux qui travaillent depuis un bureau mais qui prennent les décisions. Et puis les pharisiens, c'est les pasteurs autoritaires qui sont sur le terrain, qui sont influents. D'ailleurs, il y a plusieurs conflits entre les sadducéens et les pharisiens. Jésus, lui, critique les pharisiens parce qu'ils sont hypocrites. Mais pas tous. Pas tous. Certains pharisiens, d'ailleurs, étaient favorables à Jésus. Quand on pense à Nicodème, l'histoire de Nicodème que vous connaissez peut-être, eh bien, on voit un pharisien qui est très favorable à Jésus et qui se laisse rejoindre par lui. En résumé, quand on parle des pharisiens, on trouvera la paix via notre fidélité à la tradition et à la loi, parce que c'est ça notre focus principal. Puis ensuite, il y a un groupe, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce groupe-là, les Esséniens. Ce n'est pas un groupe qu'on retrouve dans la Bible, en fait, mais des recherches archéologiques nous montrent cette communauté. Une communauté, vous avez peut-être entendu parler de la communauté de Qumran, ou bien des manuscrits de la mer morte. Ça, c'est des découvertes archéologiques majeures qui nous ont aidé à comprendre davantage sur justement ce groupe des Esséniens. Et aussi, on a trouvé beaucoup, beaucoup de manuscrits de la Bible dans ces manuscrits de la mer morte. Bref, c'est une communauté qui était dédiée à une vie de purification finalement. Ils voulaient purifier leur communauté, rester pure. Et puis la façon de se profiler dans tout ça, bah, c'était de se détacher complètement, de sortir du monde, de créer notre propre groupe fermé. Alors pour eux, leur idée de la paix, on n'est pas certain, mais avoir la façon dont ils réglaient ce qu'ils voyaient comme problématique dans le judaïsme, eh bien c'est justement par le retrait. Par le retrait. Ce qui ne va pas vraiment avec la description de faiseur de paix, artisan de paix. Et on trouve un quatrième groupe qui est celui des zélotes. Ça, c'est un groupe de radicaux, de militants. Alors, est-ce que c'était vraiment un groupe officiel, organisé, établi ? La question, elle reste ouverte. Mais en tout cas, ils étaient là. Et puis, on entend parler d'eux. On entend parler, par exemple, de Simon le Zélote. Ils ne veulent pas laisser les choses se passer comme ça. Il faut reprendre le pouvoir. Il faut ne pas se compromettre. Et puis pour eux, la paix, eh bien, si elle doit passer par un conflit à court terme maintenant, la paix à longue durée, eh bien ça en vaut la peine. C'est comme ça qu'on obtient la paix. Donc tous ces groupes ont leur propre définition ou compréhension de ce que vivre la paix dans le contexte de l'occupation romaine, ça pourrait signifier. Et ça a une influence sur les gens qui sont en train d'écouter ce sermon sur la montagne. Jésus dit « heureux les artisans de paix ». Et ça passe via des filtres de compréhension que les gens appliquent. Et puis là, j'en ai juste énuméré quelques-uns. Et selon toi, c'est quoi la paix ? C'est quoi la paix ? Et selon Jésus, c'est quoi la paix ? Je pense que pour en comprendre le contenu de la paix selon Jésus, il faut continuer à lire. Idéalement, il ne faudrait pas juste lire les versets qui suivent, il faudrait lire tout le sermon sur la montagne. Pourquoi pas faire ça ce soir, avant d'aller au lit, ou bien cet après-midi, s'il continue de pleuvoir. Lire le sermon sur la montagne. Pourquoi pas en faire une priorité, en fait. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors il semble que la paix que Jésus, elle prône, elle dérange. Bien sûr, elle dérange l'occupant romain, hein, qui ultimement va mettre en exécution la crucifixion de Jésus. Mais la paix que Jésus prône, elle dérange aussi ses pères, elle dérange ses compatriotes. Pour qui il se prend ce Jésus qui se mixe avec des collecteurs d'impôts, qui va auprès des lépreux, auprès des impurs, qui parle à des femmes étrangères? Pour qui il se prend ce Jésus qui nous dit qu'on doit payer l'impôt à César? Pour qui il se prend ce Jésus qui ne respecte pas le sabbat et qui guérit des gens ce jour-là? Pour qui il se prend ce Jésus qui risque de créer un soulèvement et de détériorer le statut que les Romains veulent bien nous accorder? Ouais, l'engagement de Jésus pour la justice du royaume des cieux, elle va bien au-delà de ce qui est confortable pour les gens qui entendent parler de ce sermon. Va bien au-delà de ce qui est connu, qui est commun pour ses compatriotes, et ça dérange. Heureux ceux qui s'engagent pour la justice, qui s'engagent pour l'équité, qui s'engagent pour la paix, qui y renoncent pas, même s'ils sont opprimés à cause de ça, même au sein de leur propre rang. Jésus, finalement, il incarne pleinement ce désir de Dieu pour que son peuple reflète la justice. Et il répète lui-même des paroles du prophète Osée qui dit « Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. » Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. En tant que ses disciples, c'est toujours le bien pour notre prochain que nous sommes appelés à chercher pour manifester la culture du royaume, la culture du royaume des cieux. Alors osons être prophétiques, osons être un miroir pour nos frères et sœurs. Aller là où parfois, ça dérange un peu. Aller là où parfois, peut-être c'est pas vu du meilleur œil. Si c'est pour être des instruments de compassion, je crois qu'on est dans le juste. Mais finalement, ces béatitudes, elles prennent une nouvelle tournure avec un langage qui devient tout d'un coup bien plus direct. Peut-être même encore plus choquant que toutes celles que nous avons vues jusqu'à maintenant. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Là, Jésus, il change de ton, hein. Il passe, on dirait, à la deuxième vitesse. C'est plus heureux les, heureux ceux qui, c'est heureux serez-vous quand? Heureux serez-vous lorsque ceci arrivera. C'est bien plus direct. C'est bien plus direct. Jusque-là, on aurait peut-être pu faire l'erreur de se dire qu'on peut un peu se détacher de ce qu'il dit. C'est les doux, c'est les pauvres en esprit, c'est eux, c'est pas forcément moi. Je me sens un peu moins concerné. Eh bien là, Jésus laisse plus de place pour se dérober. Non. Non seulement il s'adresse à son auditoire directement, et je crois qu'on peut aussi prendre ces paroles comme des paroles qui sont adressées directement à nous. En plus de ça, il nous prévient de ce qui attend ceux qui vivent selon cet esprit des béatitudes. Vous voulez être mes disciples ? Eh bien, soyez prêts. Vous risquez de subir l'insulte, la persécution, les calomnies à cause de moi. Moi, je vous parlais de la surprise des gens avec qui je fais connaissance lorsque je leur dis que je suis pasteur. Et puis, c'est une situation qui est rigolote. Mais je m'attends à ce qu'un jour, ces paroles que je prononce, peut-être qu'elles doivent me coûter un peu plus cher. Peut-être même bien plus cher. La persécution, pour nous, ce n'est pas un sujet au sens même que des milliers de chrétiens à travers le monde connaissent. On ne peut pas oublier ses frères et sœurs en Christ qui traversent des tempêtes tellement violentes. On ne peut pas oublier de prier pour eux, de s'engager pour eux. Ils traversent ça à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais nous aussi, on est appelés à tenir ferme, avec des formes peut-être un peu plus sournoises, bien allégées de persécution que l'on peut vivre peut-être déjà aujourd'hui. Et peut-être que la persécution, elle viendra de manière encore plus forte. Écoute. Écoute. Voilà notre thème de l'année. Écoute, Jésus dit, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Écoute. Oui, réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Est-ce que nous sommes préparés pour nous réjouir de cette récompense ? Est-ce que nous sommes préparés pour trouver la joie même dans l'adversité jusqu'à l'extrême ? Écoute. Vivre selon l'esprit des béatitudes, ce n'est pas un chemin de facilité. Ce n'est même pas un chemin qui est très désirable comme ça. Paul, dans son épître à Timothée, montre bien que la voie du Seigneur, ce n'est pas toujours la plus populaire. C'était déjà un enjeu à son époque. Il dit à Timothée, « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Supporte les souffrances. » C'est un chemin de souffrance, les béatitudes. C'est un chemin de difficulté, de vulnérabilité. Jésus ne promet pas une vie facile, mais il promet la vraie richesse. La vraie richesse qui est celle du royaume des cieux. Le royaume des cieux vous appartient. Oui, réjouissez-vous, soyez heureux. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Le chemin des béatitudes, c'est une vie d'investissement dans et pour la nouvelle création. C'est une vie marquée par l'assurance que le royaume de justice, le royaume de vie, le royaume de joie, de paix, ce royaume-là, eh bien, il vient. Et puis, il est déjà venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Alors oui, nous aujourd'hui, on attend encore sa pleine révélation, mais on peut déjà en voir des signes, gloire à Dieu. Avec la semaine sainte qui s'ouvre devant nous, on va de nouveau nous souvenir de la façon si authentique avec laquelle Jésus il a prêché ce sermon. L'humilité. La souffrance, la douceur, la justice, la bonté, la pureté, la paix. Jésus, il a incarné tout ça jusqu'à l'extrême. Et ça l'a conduit jusqu'au chemin de la mort. Parce qu'il avait en vue le réel bénéfice qu'une vie vécue selon son enseignement, elle peut produire éternellement. Il avait ça bien en vue. Jésus, il est allé jusqu'à la mort pour ceux qui le méprisaient, parce qu'il voyait la récompense non seulement pour lui, mais pour l'humanité tout entière, un investissement pour le royaume des cieux. Alors, nous aussi, on est appelés à investir pour la nouvelle création, investir pour le royaume des cieux. Quelle grande richesse c'est. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas été dans le plus concret, mais j'aimerais vous inviter à ouvrir vos horizons, à réfléchir pour vous de quelle manière vous pouvez vous laisser interpeller par ces béatitudes. Et j'ai quelques questions, quelques suggestions, et vous avez probablement les vôtres, des choses auxquelles vous pouvez réfléchir. On va prendre un petit temps de silence après. Je prierai et puis on prendra encore un chant. Mais réfléchir à ces questions avec Dieu, c'est quoi la paix pour moi finalement? Et si je suis appelé à être un faiseur de paix, un artisan de paix, où est-ce qu'il y a une zone de conflit dans laquelle je dois aller, dans laquelle je dois aller pour être un instrument de paix, pour apporter la perspective du royaume? Et finalement, est-ce que moi-même, je suis prêt à m'engager sur ce chemin des béatitudes? Seigneur, une vie à ta suite, c'est pas toujours le plus facile. Mais une vie à ta suite, c'est une vie marquée par la vraie richesse du royaume. Seigneur, donne-nous de comprendre ça, de le vivre, de le mettre en priorité. Seigneur, aide-nous à être des instruments de paix, de justice. Et Seigneur, apprends-nous à tenir ferme et à considérer même comme un sujet de joie de parfois avoir à souffrir parce que l'on veut te rester fidèle, parce qu'on veut t'honorer, parce qu'on veut te mettre à la première place. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour cette magnifique récompense que tu nous promets. La vie éternelle. La joie pleinement, pleinement vécue dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, tu nous promets de pouvoir régner avec toi. Tu nous promets de vivre la paix parfaite avec nos frères et sœurs. Tu nous promets de ne plus connaître la souffrance. Eh bien, Seigneur, nous voulons nous attacher à ta promesse et te dire merci pour la vie en abondance. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas renoncé à aller jusqu'à la croix pour nous. Tu n'as pas renoncé à te donner, Seigneur. Bien que nous puissions être inspirés par cela aussi. Et oser nous donner pour notre prochain, Seigneur. Oser nous donner pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen.